Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans Estivalitude. Dans 10 000 ans, que dira-t-on de cette émission dont les archéologues retrouveront les vestiges? Un signe de décadence, de renouvellement, je l'avoue, je m'interroge. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Marc Duguin, après avoir souvent exploré des thèmes politiques ou historiques, vous nous offrez une fable saisissante sur la possibilité de l'immortalité. Ce nouvel opus se nomme Transparence. Après l'ère du vide, dont parlait Gilles Lipovetsky, voici l'ère de la transparence, pour le pire à n'en point douter. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Roland Portiche, les yeux écarquillés, le philosophe et documentariste que vous êtes, interroge le futur sous toutes ses formes. Dans Les Enfants de Mathusalem, vous enquêtez sur l'allongement de la vie. Bonjour Roland Portiche.
Bonjour.
Vous me voyez venir de très loin avec mes gros sabots. Ce matin, avec beaucoup d'estivalitude, je vous rassure, on se pose une simple question. Demain, tous immortels, Magnéto Juliette.
France Inter, Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore ?
Christophe Bourseiller.
Roland Portiche, vous connaissiez Marc Duguin ?
Oui, de nom, bien sûr.
Ah bah, qui ne le connaît pas, quand même.
Voilà, mais puis je savais qu'il avait réalisé des films, qu'il avait écrit des livres qui ont été très, très estimés. J'avoue que j'ai pas pu prendre le temps de lire son dernier livre, parce que je suis en ce moment dans une phase d'écriture d'un roman. Il n'y a rien de plus prenant au monde. Et quand vous commencez avec un roman, rien d'autre n'existe au monde.
Ah bah c'est, faut le dire à Marc Duguin, parce que ces romans, on ne peut pas s'en libérer. L'Emprise, moi, cette trilogie, je l'ai lu, je ne pouvais plus m'arrêter de vous lire, Marc Duguin.
Mais je comprends ce que dit Roland, parce que quand on écrit, là, moi, je me suis remis à écrire, parce que quand on parle d'un livre, mais qui est écrit déjà depuis peu de temps, mais quand même. Et quand on se met à écrire, c'est très, très difficile de lire les livres des autres. En fait, il y a quelque chose de très perturbant.
Oui.
En revanche, une fois qu'on a fini, on peut se remettre à lire. Il y a aucun problème.
Et donc, quand vous écrivez l'un l'autre, vous ne faites que vous lire, en quelque sorte, et vous lisez des magazines, c'est ça?
On est dans notre univers. C'est vrai qu'on peut lire des magazines, mais c'est vrai que globalement, il y a quelque chose qui nous englobe, qui nous appréhende et qui fait qu'on a du mal à en sortir. Et je crois qu'en effet, il faut attendre d'avoir fini pour pouvoir s'en libérer. Ça, je le pense vraiment. En tout cas, moi, c'est l'expérience que je vis en ce moment. Jusqu'à présent, j'ai surtout écrit des documents et je fais cette expérience d'écrire un premier roman. Et je crois que c'est quelque chose qui est encore plus rigoureux et plus enveloppant encore qu'un document.
Roland Portiche, en un mot, ce premier roman, il est sur le même thème que votre obsession sur l'allongement de la vie, l'immortalité?
Pas du tout.
Il est sur un
thème tout à fait particulier qui repose sur une histoire vraie d'ailleurs. C'est l'histoire d'un prêtre qui, en 1956, en pleine guerre froide, aurait construit une machine à voir dans le passé pour découvrir le vrai visage de Jésus.
Ah bah écoutez, ça promet.
Cette machine aurait été mise sous le boisseau et démontée sur l'ordre du pape Paul VI. Alors évidemment, il y a là-dedans beaucoup de mythologie sans doute, mais j'ai fait comme si c'était vrai et j'ai essayé de raconter l'histoire de cet homme.
Et vous, Marc Duguin, ce prochain roman dont vous commencez l'écriture aujourd'hui, est-ce que ce sera dans la même direction que Transparence, c'est-à-dire une fable qui se passe en 2060?
Non, c'est un roman qui se passe en ce moment, c'est vraiment un roman dans le milieu du renseignement, sur cinq acteurs dans le milieu du renseignement qui sont des acteurs à des échelons divers, mais qui se connaissent bien et qui vont fomenter ensemble une sorte de complot très inattendu.
Alors votre travail, c'est un travail profondément historique, politique, moi je trouve, y compris d'ailleurs Transparence. On est vraiment dans une réflexion sur l'avenir de ce monde. Mais votre livre, il aurait pu s'appeler « La fin de la mort ».
Oui, il aurait pu s'appeler « La fin de la mort ». Et c'est vrai que la fin de la finitude, c'est ça un peu, c'est un peu la question que je pose dans le roman. C'est-à-dire, est-ce que vraiment... Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, on est dans une période charnière. C'est-à-dire, d'un côté, avec ce qui se passe sur le plan écologique...
Le réchauffement climatique dont vous parlez longuement dans votre livre.
Évidemment que j'évoque... Il y a plein de gens pour dire, bon, c'est la fin de l'espèce, ça va être la cinquième ou la sixième extinction, je sais plus très bien, mais en tout cas, il y a un risque d'extinction de l'espèce. Et en même temps, avec la révolution numérique, il y a apparemment des possibilités qui s'ouvrent d'une forme d'immortalité, en tout cas déjà dans un premier temps d'un prolongement de la vie. Et ensuite, avec l'intelligence artificielle et la mutation de l'homme dans une enveloppe indestructible, la question de l'immortalité. Et c'est très intéressant que ces deux choses se passent à un moment où l'espèce humaine risque de disparaître.
Alors, votre héroïne, il faut quand même raconter, c'est une femme qui dirige une entreprise puissante.
Dans le numérique,
et qui, voilà, dans le numérique et qui habite en Islande, à cause du réchauffement climatique, puisque maintenant les nouvelles terres où convergent tous les gens fortunés, c'est le Groenland, c'est l'Islande, c'est les zones les plus fraîches de la planète, et elle prépare un coup fumant. Alors, quel est ce coup fumant? Est-ce que vous pouvez nous le raconter?
Mais ce coup fumant, c'est justement d'annoncer à la surprise générale que ça y est, l'immortalité, enfin en tout cas, elle a vaincu la mort.
Elle explique qu'elle est devenue un robot immortel. Cette femme que vous avez devant vous est un robot immortel. Et à partir de là, ça devient une fable politique, parce qu'elle organise la sélection par algorithme des humains qui pourront à leur tour se transformer en machine pour vaincre la mort. C'est complètement démoniaque, votre scénario.
Oui, c'est démoniaque, mais c'est vraiment une fable. Enfin, c'est une fable un peu, moi, j'essaie toujours d'être assez réaliste parce que j'ai pas voulu faire de la science-fiction. La science-fiction, c'est un domaine très particulier que je respecte beaucoup, mais je ne sais pas faire. Moi, ce qui m'intéresse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de politique, ce qui m'intéresse, c'est d'anticiper, aussi loin que possible ce qui pourrait se passer à partir de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire où est-ce que ça pourrait nous mener raisonnablement. Mais évidemment, au bout d'un moment, on décroche un peu du réel, puisqu'on se projette assez loin, et là, on va dans la fable. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on regarde tous ceux qui travaillent, en particulier Google, qui travaillent sur l'immortalité, qui travaillent sur la transformation de l'être humain, il y a J'ai la certitude qu'il va se passer quelque chose de très grave au niveau climatique avant la fin de ce siècle. J'ai l'intime conviction, comme dirait un juge, j'ai l'intime conviction qu'il va se passer quelque chose de très fort avant la fin de ce siècle concernant
la possibilité de survivre à la vie. Roland Portier chopine. Vous êtes d'accord? Simplement, la question fondamentale que ça pose, et c'est très présent dans le livre de Marc Duguin, et c'est même brûlant, c'est la question de la sélection. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas la chance, si tant est qu'on peut se transformer en robot un jour, ce qui n'est pas dit évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'intégrer le programme. Et vous voyez, dans le livre de Marc Duguin, Roland Portier, il faut émettre des données pour avoir la chance d'être sélectionné, donc interagir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous vous tenez à l'écart des réseaux sociaux, comme beaucoup de gens, que ça les embête d'aller sur Facebook, tout ça, eh bien à ce moment-là, vous êtes louche, vous avez quelque chose à gagner. Est-ce que c'est pas un monde quand même assez orwellien qu'on envisage là?
Tel que vous le décrivez, certainement. Mais est-ce que on peut y croire? Moi, je pense que dans ces affaires-là, on déverse aussi beaucoup de nos fantasmes. Vous savez, moi qui suis un peu plus vieux que vous, dans les années 60, on avait un grand mythe. Et ce grand mythe, c'était pas du tout celui de l'immortalité, c'était celui du voyage dans l'espace. Ah, on avait le sentiment que le bonheur était au bout du voyage dans l'espace. Et puis, peu à peu, l'histoire avance, et puis d'autres technologies arrivent. Ensuite, ça a été la connaissance avec l'informatique. Aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde pense à l'immortalité. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit totalement un fantasme. Tout ça repose sur des réalités qui tiennent aux recherches biologiques. Je crois que notre longévité est appelée à augmenter. Ça, je suis absolument persuadé qu'à la fin du 21e siècle, nous nous heurterons au mur des 150 ans comme nous nous heurtons aujourd'hui au mur des 100 ans. Pour autant, est-il possible d'aller plus loin et donc évidemment de se poser toutes les questions qui vont avec? Ça, je suis plus sceptique. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love
Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime.
Time de la sublime et glamoureuse Lana Del Rey, c'est une reprise, sachez-le, du groupe américain Sublime.
Bonjour, je m'appelle Jean Calment.
My name is Jean Calment.
Je suis né le 21 février 1865 à Arles.
I was born in Arles on February the 21st in 1875.
Alors ça, c'est un disque particulièrement pathétique. C'est même un des disques les plus déprimants que j'ai jamais entendu de ma vie. Pardon aux auditeurs de France Inter, mais en même temps, c'était très intéressant. Alors, Marc Duguin, Roland Portiche, sachez que ce disque a été fait ou sorti par Jeanne Calment en 1996 pour ses 121 ans. Et c'est un disque qui s'appelle Maîtresse du Temps. C'est là-dessus que vous démarrez votre livre, Les Enfants de Mathusalem,
oui,
Roland Portiche.
Oui. Oui, en effet, parce que figurez-vous que j'étais un des derniers journalistes à avoir interviewé Jeanne Calment. Enfin, interviewé, c'est beaucoup dire, parce qu'on hurlait la question, et son médecin lui hurlait à son tour dans l'oreille. En effet, c'est quelque chose d'assez pathétique, parce qu'à un certain moment, je crois quand elle avait 120 ans, quelqu'un a eu l'idée, je crois que c'est son médecin, d'ailleurs le docteur Lèbre, de faire un disque, alors pas du tout pour gagner de l'argent, plutôt pour ramasser suffisamment de moyens pour améliorer l'ordinaire de la maison de retraite où elle y vivait. Bon, mais ça a été très mal pris.
Alors d'où justement l'idée géniale qu'a eu Marc Duguin dans Transparence, c'est un débat, il y a un moment donné on en parle dans le livre, c'est de dire vivre 130 ans, 140 ans, si c'est pour vivre comme ça, à quoi bon ? Il faut bien vivre, bien sûr. Et donc ce que dit votre héroïne, Marc Duguin, c'est transformons-nous en robots, transférons-nous dans un corps d'androïde et choisissons l'âge auquel nous voulons avoir une sorte de résurrection. Direction quasi religieuse. Ça vous paraît viable, Roland Portiche ?
Je vais vous dire non. Je crois qu'on pourra augmenter notre longévité. J'ai vu Jeanne Calment de près. Et je pense, comme Marc Duguin, que c'est pas vivre, ça. C'est survivre. On faisait tous semblant, les journalistes qui étaient autour d'elle, à s'extasier devant « Ah, c'est merveilleux, c'est 120 ans, Jeanne Calment ». En vérité, c'était pathétique. Elle survivait. Elle était entourée d'une équipe de médecins et d'infirmières. Elle engueulait tout le monde, parce que Jeanne Calment avait plutôt mauvais caractère, et puis le reste du temps elle était toute seule assise dans un fauteuil, et elle se repassait le film de sa vie, toujours le même, comme s'il était en boucle. c'est pas vivre, c'est survivre. Et nous pensions tous la même chose, même si en hypocrite que nous étions, devant elle, nous disions « Ah, c'est merveilleux, Jeanne ». Alors, effectivement, si vivre, c'est si vivre longtemps, ça consiste à devenir comme Jeanne Calment. Non, ce qu'il faut, c'est essayer de vivre longtemps, parce que moi aussi, j'ai envie de vivre 120 ans, mais pas dans cet état. Et donc, améliorer... Pour autant, alors est-ce que on peut le faire en téléchargeant son esprit dans un
ordinateur ? Pourquoi pas ? C'est ce que dit Marc Duguin. Pourquoi pas ?
Mais personnellement, j'y crois assez peu. Ouais. C'est ce que proposent les transhumanistes aujourd'hui. Hein.
Alors justement, attendez, pas trop vite, Roland.
Qu'est-ce que
vous dites ? C'est ce que propose votre personnage.
Oui, c'est ce que propose le personnage parce que c'est un personnage qui est convaincu. Parce que moi, je partage en fait vos convictions sur le fait que je pense que l'être humain a ses limites, et ces limites, on ne les dépassera jamais. Simplement, l'idée, aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent que l'homme pourra être Dieu. C'est-à-dire qu'on pourra vaincre la mort au sens où ça se passera, en fait, à travers l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va créer des robots qui, eux, seront éternels. Mais nous, on ne le sera jamais. Et là, pour le coup, il y a un vrai problème. C'est que les robots qu'on va créer d'ici la fin de ce siècle sont tout à fait capables de nous évincer. Et ça, c'est la vraie problématique. Et d'ailleurs, les plus grands chercheurs qui ont compris quel était l'enjeu à ce niveau-là s'offusquent de toutes les recherches qui sont menées dans ce domaine.
Alors, Laurent Loportiche, vous avez visité une île grecque nommée Icaria, que je connaissais pas du tout, et j'aimerais vous faire écouter un court reportage du Journal de France 2 en 2017 sur Icaria.
À 106 ans, Ioana Proeiu commence toujours sa journée avec un peu d'exercice.
Je vais très bien ce matin.
La doyenne de l'île continue de travailler dans son atelier de tissage, 6 heures par jour.
Mes mains sont un peu engourdies aujourd'hui. J'ai 106 ans et 3 mois. Oui, 3 mois. Et j'ai encore très envie de travailler.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette île Icaria en deux mots, hein, Roland? Pourquoi vous, dans votre livre, vous êtes allé sur Icaria?
C'est une île qui fait partie des 5 zones bleues de la planète. Alors, ce qu'on appelle les zones bleues, ce sont des endroits très particuliers, très privilégiés, où les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs. Alors, il y a, comme tout le monde le sait, l'île d'Okinawa. Hein, au Japon.
Enfin, moi, je ne savais pas, mais c'est bien, d'accord.
Ah oui, les gens, vivent... Les super centenaires, pas
alors,
les centenaires.
Alors, attendez, Roland, qu'est-ce qui fait qu'on y vit plus longtemps? Donnez-nous le secret, quand même, alors, parce que là, écoutez, à 10 heures, on ferme la boutique éphémère, il faut qu'on sache.
Alors, c'est un mélange de choses. Il y a d'une part un aspect génétique, c'est-à-dire que les gens qui vivaient sur Icaria se sont reproduits entre eux et ont communiqué sans doute des gènes favorables. Parce qu'il est indéniable qu'il existe des gènes que les centenaires se partagent. On en connaît au moins 2.
Donc ça, on n'y peut rien.
Ça, on n'y peut rien. En revanche, il y a aussi des éléments qui tiennent au mode de vie. Alors, c'est évidemment la manière de se nourrir. En l'occurrence, le fameux régime méditerranéen, qui quand même préserve des cancers et des maladies cardiovasculaires.
C'est-à-dire l'huile d'olive.
Huile d'olive et beaucoup d'autres choses. Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué, non pas sur Icaria, mais sur une autre île qui est la Sardaigne, qui fait partie de ces 5 zones bleues, et où vivent beaucoup de centenaires, surtout dans le nord de la Sardaigne, c'est le mauvais caractère.
Mauvais caractère vous sauve. C'est ce que je m'en doutais, je le sentais.
Voilà.
Ça suffit, Roland.
Le mauvais caractère des centenaires. On a découvert, et j'ai constaté moi-même, en visitant en 48 heures 5 ou 6 super centenaires, des centenaires, mais des super centenaires.
Ils sont odieux.
Que ces gens-là sont odieux. sont odieux et sont extrêmement rigides. Et pourquoi vivent-ils plus longtemps? Peut-être parce qu'ils savent, ils ont l'art de transférer leur stress sur les autres.
Alors plus sérieusement, Marc Duguin, Roland Portiche cite quelqu'un d'assez fascinant, c'est Ray Kurzweil. Il cite Ray Kurzweil qui dit « La fin des grandes maladies, c'est pour 2050 ». Vous pouvez me dire qui est Ray Kurzweil, l'un ou l'autre ? Marc, vous connaissez Ray Kurzweil?
Oui, Kurzweil, c'est quelqu'un qui travaille chez Google, qui est en fait en charge de tout ce qui est augmentation de l'être humain, transhumanisme, et tout, justement tout ce délire dans le, qui est l'objet de l'émission aujourd'hui. Et c'est quelqu'un d'assez inquiétant.
Alors c'est très difficile, en vous écoutant l'un et l'autre, de faire la part des choses entre le délire et ce qui est possible. Parce que d'un côté, vous dites, oui, tout ça, c'est de la folie, on veut devenir Dieu, on n'y arrivera jamais, tu parles de téléchargement, c'est du rêve. Et en même temps, vous nous dites, oui, mais l'allongement de la vie, ça arrive, c'est possible. Alors, où est la vérité? Est-ce que vous le savez, quelle est la vérité? Où on va vraiment?
On serait Dieu si on savait la vérité.
Oui, mais j'ai le sentiment quand même que... vous savez, en gros, je pense que l'espérance de vie jusqu'à aujourd'hui, elle a été menée par les progrès de la médecine et de l'hygiène. C'est comme ça qu'on est passé de 10-12 ans d'espérance de vie à aujourd'hui à peu près 80 ans. Si on veut aller au-delà, je crois qu'il faut qu'on arrive à résoudre un problème, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le mécanisme propre au vieillissement. Et c'est ce que je pense un certain nombre de recherches font aujourd'hui. Le mécanisme biologique. À partir du moment où ces mécanismes biologiques seront mieux connus, je ne pense pas qu'on atteindra l'immortalité, mais en tout cas, je pense que la longévité pourra être, en effet, pourra progresser.
En 1980 déjà, Bernard Lavilliers, mais oui, dans La Grande Marée, nous parle d'un futur qui n'est pas désirable du tout.
Colosse au pied d'argile surveille la frontière. Des gosses aux mains fragiles jouent avec la poussière. Des veuves aux longs doigts fébriles distillent le thé. Un vieillard au regard tranquille sort de la fumée. La grande marée, la grande marée. La grande marée, la grande marée, la grande marée. Un roi perclus de solitude, sur son trône dérisoire. Un café, une pendule, un bout de trottoir. Un réveil sinistre et drôle sur l'épaule d'un ouvrier qui s'en va au bout du monde vers l'éternité. C'est la grande marée, la grande marée, la grande marée. Enfants qui jouent à l'ombre des matraques, le temps qu'il fait, 6 mois de prison, un maniaque. Une étoile est tombée dans ma guitare. Si j'étais croyant, ce serait un don du ciel. La grande marée, la grande marée, la grande marée. La grande marée, la grande marée, la grande marée. Les rues n'ont plus de recoins, plus d'angles morts. Ça facilite les rapports de force. Il n'y a plus d'amoureux, plus de bon public. Nous sommes éternellement bronzés. Notre vocabulaire est réduit à 50 mots. Nous branchons nos sexes dans le secteur et nos spermatozoïdes sont calibrés et placés dans des banques. Ils servent de monnaie d'échange au aux eunuques qui nous gouvernent. Notre société d'abondance fait merveille. Il n'y a plus qu'une classe. Quoi qu'en y réfléchissant bien, il y en est une autre. Mais il est déconseillé de réfléchir. Nous ne faisons plus jamais l'amour, sauf de temps en temps, avec les gardiens qui nous surveillent. Le mien est frigide. C'est la grande marée, la grande marée, la grande marée. C'est la grande marée, la grande marée, la grande marée. C'est la grande marée, la grande marée, la grande marée.
La Grande Marée, Bernard Lavillier dans Estivalitude sur France Inter, une programmation voyante et maritime de Muriel Pérez.
Vous avez dit que...
Vous avez dit
que... Mais vous m'avez rien dit.
Parce que c'est faux.
C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai.
C'est pas possible qu'on fasse de la politique et d'être comme tout le monde. Pour une raison simple, c'est qu'on prend tellement de coups qu'il faut aimer ça quelque part. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi il y a autant de gens intelligents dans la société qui ne font pas de politique.
Marc Duguin, c'est vrai que vous êtes un homme engagé politiquement, vous avez une réflexion, un regard, vous faites presque, on pourrait dire, œuvre de politologue à travers vos romans. C'est un peu ça votre envie, c'est d'essayer de remettre les pendules à l'heure?
J'essaie, à travers le roman, d'aborder évidemment des questions politiques, mais je le fais sans idéologie, c'est-à-dire je suis pas marqué, je me méfie des clivages, je me méfie des enfermements, et j'essaie de garder une liberté. Mais c'est évident que quand il y a des grandes questions qui se posent, comme aujourd'hui la question écologique, qui pour moi est fondamentale, donc là j'ai un véritable engagement. Et par ailleurs, c'est vrai que cette société du numérique... Moi, j'ai pas connu la première révolution industrielle. Je crois que j'étais pas né, ni la seconde. Mais la révolution numérique, je l'aurais connue depuis le début. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a, c'est une telle transformation de la société. On parlait d'immortalité tout à l'heure. Mais pourquoi on va arriver de toute façon à allonger la durée de vie? C'est parce que, à travers la collecte des données, on va être capable d'améliorer nos connaissances sur le fonctionnement du corps humain comme on n'a jamais été capable de le faire jusque-là. Donc tout ça est intéressant, mais tout ça aussi, la révolution numérique, ça c'est par exemple c'est le bon côté de la révolution numérique, tous les impacts en termes de santé, de choses comme ça. Mais de l'autre côté, faut pas oublier qu'il y a un problème de surveillance généralisée.
Alors c'est marrant parce que
donc c'est ça le travail aussi de l'écrivain. C'est de remettre tout en perspective.
D'où l'idée que vous êtes une sorte de moraliste. Enfin, il y a eu un très bel article de Nathalie Krom dans Télérama qui dit c'est sa sagacité qui nous est devenue précieuse. Marc Duguin nous apparaît aujourd'hui comme un écrivain moraliste, de ceux dont le regard sur le monde nous éclaire, nous instruit, nous alerte. C'est important, Roland, d'être dans cette posture d'alerte, d'alerter les gens.
C'est sûr.
Vous le faites, vous ?
C'est sûr, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de guetter, de voir venir à l'avance les grandes mutations. Je pense que qu'on est à la veille d'une grande mutation anthropologique, et si on la prépare pas, on risque d'être dépassé par ce qui va arriver. Et cette mutation va peut-être arriver très vite à la faveur d'une découverte biologique qui va faire que notre espérance de vie va augmenter de 30 ou 40 ou 50 ans. Je pense en particulier aux travaux de David Sinclair. À partir de ce moment-là, on va faire entrer dans nos vies un paramètre nouveau qui va tout bouleverser, et ce paramètre, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on aura plus de temps.
Et alors, il y a deux paramètres, Roland. Il y a le temps, et puis il y a quelque chose que dit Marc Duguin qui est important, c'est aussi la nature d'un pays. Vous voyez, à propos dans Transparence, Marc Duguin, vous écrivez « La France est le pays de la révolution à condition que rien ne bouge ». C'est pas très gentil pour les Français, ça.
Mais ça, c'est une façon un peu humoristique de traiter cette espèce de bouillonnement congénital qu'on a, mais qui débouche pas forcément sur de grandes réformes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez nous, une sorte d'impatience à vouloir transformer les choses, et en même temps, il y a un conservatisme profond. Voilà, cette expression, elle vient de là.
Mais
c'est pas méchant.
Il y a aussi une très belle phrase que je trouve très intéressante, où vous avez une vision très sombre de nos démocraties. Vous dites « Par une apparente douceur, le champ de la domination est infini ». C'est terrifiant, cette phrase.
Oui, ça, j'y crois assez, oui.
Vous y
oui,
croyez?
J'y crois assez.
Moi, j'ai une question à vous poser.
C'est pour l'écrire, en tout cas.
J'ai une question à vous poser sur un phénomène récent. C'est, vous savez, le fameux vol MH370 qui a disparu au large de l'océan Pacifique. On n'a jamais su ce qu'il était devenu. Et vous, vous avez émis une thèse sur la disparition de ce vol, selon laquelle il aurait été peut-être abattu par un missile, c'est ça?
Oui, alors j'avais fait une très très longue enquête sur la disparition de cet avion pour Paris Match d'ailleurs à l'époque. Et c'est vrai que c'est une enquête extrêmement compliquée parce que j'ai rarement vu autant d'obstructions pour aller vers un semblant de vérité, puisque là pour le coup il s'agit de vérité, on n'est plus dans le transhumanisme. Et il y avait effectivement une thèse qui était possible, c'est que l'avion clairement avait été détourné de son parcours prévu pour aller vers Diego Garcia, qui est une base extrêmement importante qui appartient aux Américains dans l'océan Indien. Et que approchant de cette base, il aurait été descendu
oui,
par un missile.
Oui, c'est une thèse envisageable.
Envisageable. Après, dire que c'est la vérité, je pense que c'est vraiment prématuré.
Roland Portiche, est-ce que vous avez une question à poser à Marc Duguin?
Oui, bah la question que j'ai envie de lui poser et qui habite une partie de mon livre et qui habite évidemment l'essentiel de son livre, c'est est-ce qu'il croit que un jour les humains pourront se passer de leur corps? Est-ce que le corps n'est pas quelque chose qui fait partie de nous à un point que pratiquement on est devenu inséparable? Est-ce qu'il est possible un jour de se séparer de son corps?
Ah, ça c'est une vraie question. Ça voudrait dire, alors il y a deux solutions. Soit il y a des solutions, je dirais, évolutionnistes, c'est-à-dire que, par exemple, l'exosquelette, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas se séparer de son corps, mais c'est avoir un corps supplémentaire. L'exosquelette, c'est quoi? C'est un squelette qui permet à une personne âgée, par exemple, de marcher tout à fait normalement, de bouger tout à fait normalement. Après, sortir de son corps, je pense que dès le moment où on sortira de notre corps, on ne sera plus l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on ne sera plus, ça sera une forme d'intelligence, de conscience, mais qui nous échappera. Et peut-être que malheureusement, l'avenir de l'espèce humaine, c'est peut-être qu'elle disparaîtra en tant que telle et sera remplacée par quelque chose qui sera son émanation, mais qui ne sera pas elle.
L'arrivée d'une sorte de surhomme ou de post-humain.
L'arrivée d'un post-humain qui serait un mélange de un peu ce que j'évoque dans Transparence, à la fois d'intelligence artificielle et de robotique. Et c'est là-dessus qu'ils travaillent tous.
Sauf qu'il y a dans votre livre un retournement final.
Ah oui, mais ça, il en faut toujours un.
Il en faut toujours un, bien sûr.
On le laisse au lecteur.
Marc Duguin, quelle question posez-vous à Roland Portiche? Aimeriez-vous lui poser?
Oui, c'est la question que j'aimerais lui poser, c'est aujourd'hui, donc par rapport à toutes cette inquiétude écologique qui est là et qui, à mon avis, est tout à fait justifié. Est-ce que pour vous, il y a un risque de disparition de l'espèce humaine?
Je pense toujours que, vous savez, il y a toujours chez les humains la volonté de voir en noir le monde qui se dessine après eux. Parce qu'à partir du moment où ils sont plus là, c'est plus très intéressant et donc tout peut s'effondrer. Donc on a un peu cette tendance-là dont je me méfie. L'espèce humaine, non, évidemment, va se poursuivre, va continuer. Alors simplement, peut-être qu'elle continuera différemment, c'est-à-dire qu'en effet, moi j'espère qu'elle arrivera à conquérir cette dimension supplémentaire du temps. Alors, à ce moment-là, est-ce que ça sera l'apocalypse? Est-ce que le monde sera à ce moment-là véritablement étouffé, étouffera sous une surpopulation? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y aura une autorégulation, comme toujours, ça s'est fait dans
l'histoire. C'est ce qu'on dit, il y a certains articles qui laissent entendre qu'il pourrait y avoir le début en ce moment d'une autorégulation de la population mondiale. Mais enfin, les avis sont évidemment divergents.
Mais évidemment, pour l'instant, la longévité n'a pas atteint un point où cette autorégulation peut se faire... peut devenir sensible, mais à partir du moment où on vivra 120, 130, 140 ans, il est vraisemblable que l'humanité fera en sorte de limiter ses naissances de telle manière que le monde... Alors, ce sera une limitation pas du tout imposée, une limitation consenti, comme ça s'est toujours fait dans l'histoire de l'humanité, pas quelque chose de tyrannique. Ça rendra peut-être
Chine.
Le monde
plus... Sauf en Chine.
Sauf en Chine, bien entendu.
Ça a été imposé.
Et... bien sûr, pour l'instant, il est imposé.
Et heureusement, mais, parce que sinon, il serait plus 1,5 milliard, il serait...
Il serait 3,4 milliards. Mais je pense que quand le monde sera peut-être un peu moins peuplé, parce qu'il l'aura décidé, hein, entendez-moi bien, hein, c'est, moi, je suis pas malthusianiste, quand il l'aura décidé que le monde sera moins peuplé, et peut-être qu'il sera plus facile à vivre.
En attendant, voici le nouveau titre du groupe Film Noir, c'est La Mariée Vague à l'âme, ambiance rock et cold wave.
Estivalitude. Christophe Bourseiller sur France Inter.
Alors nous arrivons maintenant à une de nos rubriques de l'émission, une rubrique importante, c'est que je demande à mes invités quel est le son qui vous résume. Alors Roland Portiche, vous, le son qui vous résume, il faut quand même expliquer un tout petit peu ce que c'est, hein, c'est le guépard de Luchino Visconti. Alors moi, je croyais que le son qui vous résumait, c'était Jeanne Calment. Je suis un peu déçu, Roland Portiche. Pourquoi le guépard de Luchino Visconti?
Parce que, d'abord, j'ai toujours été très cinéphile. Hein, mais c'est pour moi, si le mot de chef-d'œuvre n'était pas galvaudé, c'est le chef-d'œuvre absolu du cinéma et puis du reste. C'est un film absolument magnifique.
Et qu'est-ce que ça dit de Roland Portiche, le guépard?
Ça veut dire, je sais pas, ça dit peut-être quelque chose qui ressemble un peu à l'attitude du prince Salina, à la fin, qui regarde un peu le monde aller, comme il va, et puis qui sait très bien que ce monde va continuer sans lui, et qu'il accepte avec une certaine philosophie. Moi, j'arrive à un âge où on commence à regarder le monde de cette manière, en se disant que peut-être il va pas exploser, hein, c'est pas parce que je serai pas là qu'il va exploser et qu'il va disparaître, simplement il va continuer, mais un jour il continuera sans moi, et c'est ce qu'on comprend très bien le prince Salina à la fin du Guépard, qui... Vraiment, la scène de la fin est magnifique.
Alors, Marc Duguin, vous avez choisi, vous, un son d'une toute autre nature. Écoutez.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
Et là, ce qui fait la force du document, Marc Duguin, donc c'était Walter Cronkite en 1963 qui annonce sur les antennes de la télévision américaine la mort de Kennedy, du président Kennedy. Et là, ce qui fait la force du document, en fait, c'est difficile à le faire à la radio, c'est le silence qui suit, parce que Walter Cronkite est tellement ému qu'il ne peut plus parler, c'est ça?
Voilà, il a les larmes aux yeux et il n'arrive pas à poursuivre. Et il va finir par y arriver. Et c'est un document pour moi qui est extraordinaire, parce que la première fois que j'ai vu mon père les larmes aux yeux, c'était lors de l'annonce de l'assassinat de JFK. Et je me souviens très bien, puisque j'avais exactement 6 ans, et je me souviens très bien d'avoir vu dans mon père le désespoir d'abord parce qu'on avait des origines irlandaises comme les Kennedy, c'était cette génération. Si vous voulez, Kennedy c'était l'avènement au pouvoir d'une nouvelle, enfin des jeunes. Bon, maintenant
on a vécu ça aussi,
le monde nouveau, bon, qui a pas été si nouveau que ça, mais en tout cas, pour cette génération qui était celle de mes parents, Kennedy c'était un formidable espoir. Et puis on était en pleine guerre froide, et ça m'a beaucoup marqué. Et ça a fait ensuite cet intérêt que j'ai eu pour les Kennedy, qui fait que dans mon travail d'écrivain, il y a plusieurs livres qui ont été consacrés.
Absolument, dont le dernier, juste avant.
Oui, ils ont tué Robert Kennedy, la malédiction d'Edgar, et à chaque fois, ça a été des années de travail, de recherche et en permanence.
Bah, le cas Kennedy, c'est un peu la question, finalement, des limites de la démocratie. C'est comme dans Transparence, où il y a cette scène incroyable où vous avez le patron de Google qui est là, il fait preuve d'un cynisme extrême. Et finalement, est-ce qu'on est vraiment en démocratie, ou est-ce qu'il déjà, il n'y a pas des forces qui tentent au fond de pervertir la démocratie? Est-ce que c'est le cas?
C'est particulièrement important, parce que la mort des Kennedy, des deux frères Kennedy aux États-Unis, ça a été l'avènement d'une droite extrêmement cynique au pouvoir avec Nixon. Et depuis, ça, c'est, même s'il y a eu la parenthèse Obama, on voit bien que il y a une limite qu'on ne peut pas franchir aux États-Unis. Et cette limite, si on la franchit, Trump la franchit pas, au contraire. Lui, il l'embellit, il la favorise. Mais les Kennedy, ça a été la fin d'un rêve. C'est la fin du rêve américain.
Alors, ce qui est marrant, il y a un point commun entre Roland Portiche et vous, Marc Duguin, c'est que dans les deux cas, le livre de Roland Portiche et le vôtre, ça essaie d'envisager à quoi ressemblera le monde à partir de 2050. Alors, à votre avis, Marc Duguin, à quoi ça va ressembler le monde en 2050?
C'est assez compliqué à dire. J'espère qu'on sera pas tous juste derrière des téléphones, des tablettes et dans un monde totalement virtuel, incapable de parler à ceux qui sont à côté, penser qu'on est en train de parler à ceux qui sont à des dizaines ou des milliers de kilomètres, qu'on sera pas de sorte de cyber humain. Et je suis pas d'un grand optimiste, sachant que avec tous ces phénomènes-là conjugués avec la pollution, le fait qu'on pourra probablement, en tout cas pendant un certain temps, beaucoup moins se déplacer, je suis pas persuadé que ce monde qui arrive me fasse très envie.
Voilà, en fait. Vous dites que donc le réchauffement climatique va devenir un paramètre fondamental, et donc ça veut dire un exode des populations qui sont loin, qui auront des côtes, qui iront toujours plus loin vers le nord, ou quand on est au pôle sud, évidemment. toujours plus loin vers le pôle sud. Donc vous parlez d'un monde où du coup on ne pourra plus prendre l'avion, où on essaiera de dissuader les gens de prendre l'avion en disant que c'est trop polluant, et donc finalement on dira aux gens ne voyagez plus, voyagez devant vos écrans.
C'est pas rigolo, au moins ce sera pendant une période. Après, j'imagine qu'il y aura des solutions technologiques qui feront, parce qu'il y a un moment, de toute façon, si on ne règle pas cette histoire de CO2, là pour le coup on va vraiment disparaître. Donc il y aura en tout cas une période transitoire qui risque d'être compliquée, et effectivement c'est en commençant à limiter ses déplacements, parce que cette frénésie, c'est vrai que le droit, on considère que le voyage c'est un droit. Et je le comprends. Je comprends pour des tas de gens qui ont jamais pu voyager, qui, sauf qu'aujourd'hui, ça a des conséquences. Pas uniquement au niveau des déplacements, ça a des conséquences aussi sur la nature, parce qu'il y a des hordes de touristes qui débarquent à droite et à gauche, et qu'on va se retrouver dans des parcs un peu partout, et que ça va finalement plus être très intéressant de voyager, parce que ça sera moins intéressant qu'un documentaire à la télé. Et si on vous restitue le documentaire avec les odeurs et avec des choses comme ça qui font que, parce qu'on en sera capable, on n'aura plus besoin de bouger.
Tu veux que je te raconte un souvenir?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors le tout, c'est de garder le moral, hein, c'est sûr. Donc maintenant, c'est la question brutale. Votre plus incroyable souvenir de vacances, c'est quoi? Alors ça, c'est une question fondamentale. Je veux dire, ça s'appelle Estivalitude, l'émission, comprenez-moi. Donc c'est bien logique. Alors Roland Portiche, votre souvenir de vacances, le plus agréable, le plus fort ou le plus foudroyant, c'est un été en Israël, c'est ça?
Oui, c'était un été de travail en plus. Et ça n'a rien à voir avec la longévité. Il trouve que j'ai réalisé en 1994, avec François de Closet, on est allé en Israël faire un film sur la science et la Bible. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce pays, qui était pour des raisons personnelles chères à mon cœur. J'ai découvert ce pays accompagné par des spécialistes de l'école biblique de Jérusalem, et c'était un enchantement. J'ai sillonné le pays du nord au sud, de Qumran jusque en Galilée, et c'était un enchantement parce que j'avais le sentiment que j'étais de plein pied avec l'histoire antique, et puis toutes nos mythologies, toutes celles avec lesquelles on ne peut pas ne pas vivre.
Alors vous, Marc Duguin, ça n'a strictement rien à voir. C'était en Dordogne que ça se passe, votre souvenir de vacances le plus incroyable.
Oui, c'était en 76. Je venais d'avoir mon bac, et donc vous souvenez que 76, c'est l'année de la grande sécheresse.
Ah déjà, c'est la première.
C'est sous Raymond Barre, et là il y avait une sécheresse terrifiante. Il y avait plus d'eau, les nappes étaient complètement. Et donc moi, je venais d'avoir mon bac, et je bossais pendant les vacances pour payer mes études. Et je bossais, alors c'était assez drôle, je bossais dans une conserverie où on mettait évidemment en conserve des légumes frais. Et là, dans la conserverie, il faisait 54. Et on faisait les 3-8. Et donc un jour, j'étais dans la conserverie à plus 54. Et le lendemain, j'étais dans les surgelés. Et les surgelés, évidemment, c'était à moins 20. Et donc le choc thermique, c'est la première fois que je vivais un choc thermique.
C'était vacances
pareil.
De garde rouge.
Et en même temps, c'était très intéressant, parce que je me suis rendu compte ce que c'était que le travail, le vrai travail, ce que les gens vivaient à la campagne à ce moment-là. Après, j'ai récolté le tabac, le hissé dans les granges, et finalement, j'ai, avec tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai vécu cet été-là, j'ai des souvenirs formidables.
Eh bien, merci beaucoup Marc Duguin, et vous aussi Roland Portiche. Vous avez tous deux fait preuve, je crois, de beaucoup d'estivalitude. Alors Marc Duguin, votre fascinant roman Transparence est édité bien sûr par Gallimard, et vous tenez par ailleurs, je crois, une chronique régulière dans Les Échos. Roland Portiche, votre livre Les Enfants de Mathusalem, l'incroyable histoire de l'allongement de la vie, est sorti chez Stock. Vous avez par ailleurs réalisé un épisode de l'émission Secret d'Histoire, Agatha Christie, l'étrange reine du crime. C'est diffusé ce jeudi 11 juillet à 23h sur France 2. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Alors attention les Portugaises, je parle bien évidemment des oreilles. Juliette Medevielle réalise Estivalitude, et je remercie Saad Merzak, Claire Tesser, Pierre Goulencourt et Astrid Landon pour leur précieux concours. À la technique aujourd'hui, Anne-Laure Cochet. Je vous rappelle que notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter.